Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur Igeret Hatshuva, donc deuxième chapitre d'Igeret Hatshuva. Le thème qu'on a développé, donc ça fait déjà deux semaines, puisque un peu plus même, puisqu'il y a trois semaines, c'était... Vraiment, trois semaines, il y a deux semaines, c'était le 25. La semaine dernière, on a fait un cours sur le 24 Tevet, d'accord. Donc ça fait trois semaines. Alors, je vais refaire un petit topo rapide, ce qu'on explique au début. C'est la page 185.
Ah déjà, 185.
185. C'est pas dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué dans le premier chapitre d'Igeret Hatshuva que la Teshuva, ce n'est pas les jeûnes. On a expliqué longuement, avec plusieurs preuves, qu'il y a une idée reçue que la Teshuva est égale les jeûnes, ce qui est faux. La Teshuva, ce n'est pas les jeûnes. C'est quoi la Teshuva? C'est une décision, peut-être d'un instant, d'abandonner la faute. Alors dans ce cas-là, à quoi servent les jeûnes? À quoi servent les korbanot? C'est là qu'on a expliqué le dernier cours que même une fois qu'une personne a été pardonnée, il a demandé pardon à Hachem, il a décidé de ne plus recommencer, il sent quand même qu'il a besoin de s'excuser auprès d'Hachem pour redevenir chéri auprès d'Hachem comme avant. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné, l'exemple du bouquet de fleurs.
Oui.
S'il y a une personne qui a blessé sa femme, par exemple, et qui veut lui amener directement un bouquet de fleurs pour s'excuser, il va se le prendre à la figure. Parce qu'un bouquet de fleurs, c'est pas une excuse. Par contre, si il s'est déjà excusé, il a présenté ses excuses sincères, profondes, et qu'il a montré ses intentions de plus recommencer, mais qu'il sent que on a accepté ses excuses, mais c'est plus comme avant. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs n'est pas pour amener la capara. Le bouquet de fleurs n'est là que pour parfaire la capara. Il y a déjà eu la capara, mais on va la parfaire. On a donné plusieurs exemples. Alors, je cite, on avait amené l'exemple de qui a amené la Gemara à l'époque du Beit HaMikdash, on a amené un Korban Ola. Korban Ola, l'Holocauste. Pourquoi? Lorsqu'une personne avait transgressé une mitzvah positive, il a amené un Korban Ola. Et lorsqu'une personne avait transgressé une mitzvah négative, il a amené un Korban Khatat, l'expiatoire. Maintenant, la Gemara explique dans le traité Svarim qu'on ne doit pas faire l'erreur de penser que le sacrifice pardonne. Hein, parce que le détail n'est pas là, mais voilà. Ne croyez pas que j'ai fait une bêtise, je vais amener une poule, elle va me pardonner. Ça marche pas comme ça.
C'est trop facile après.
C'est pas extra facile, c'est que ça marche pas comme ça.
D'accord.
Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. La poule n'a rien fait. Seulement, comment ça fonctionne? La Gemara donne l'exemple. Elle dit, il y avait une fois une personne qui a blessé le roi. Et le roi, il veut lui faire la peau. Et maintenant, cette personne qui a blessé le roi, il a envie de faire la paix avec le roi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller s'excuser auprès du roi. Et le roi dit, je t'excuse. Mais le roi a plus envie de lui parler. Il dit, je t'excuse, mais je veux plus te parler. Qu'est-ce qu'il fait? L'ami du roi, il va aller chercher un ministre qui connaît bien le roi. Il va lui dire, est-ce que tu peux faire passer au roi de ma part un cadeau? Comme le bouquet de fleurs, en fait. C'est l'équivalent du bouquet de fleurs. Tu vas lui faire passer, on aurait dit aujourd'hui une boîte de chocolat, une bouteille de vin, un bon champagne, etc. À quoi il sert? À quoi il sert? Mon roi, on envoie d'autres choses. Pourquoi tu envoies ça? C'est pas pour t'excuser. C'est parce que tu sens que le roi n'a pas envie de t'accueillir. Dis la Gemara, c'est la même chose. Le korban, n'est pas là pour remplacer la teshuva. Le korban, le sacrifice, est là pour parfaire la teshuva. Une fois que j'ai déjà décidé de revenir vers Hachem. Parce qu'en parallèle au korban que j'offrais, je devais avoir une kavana profonde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous savez, je l'ai pas dit la dernière fois, ça. Lorsqu'une personne amenait un korban au Beit HaMikdash, il y avait le Kohen qui était à côté. Vous savez ce qu'il disait au Kohen, aux Juifs? Qu'est-ce qu'il disait le Kohen? Il lui disait fait teshuva. Parce que le Kohen savait très bien que dans la tête des gens, c'est bon, j'ai payé l'animal. Combien ça vaut? Tu amènes une vache, combien ça vaut une vache? Ça peut être des gros frais. Donc des fois, une personne peut dire, bon, ben,
j'ai payé.
Et t'avais le Kohen qui était à côté, qui disait, fais teshuva. Pourquoi le Kohen rappelle ça? Il fallait même aussi mettre les mains, enfin, toute une procédure, parce que on voulait bien faire comprendre à la personne que le korban n'est pas la capara. Le korban, il n'est là que pour parfaire la capara. Ok. Maintenant, de nos jours, on n'a plus le korban, malheureusement, parce qu'on n'a pas le Beit HaMikdash. Et c'est là qu'on a expliqué la semaine dernière, on a juste touché au sujet ça, le dernier cours. On a expliqué que, de nos jours, le jeûne remplace le sacrifice. Quel rapport entre le jeûne et le sacrifice? Parce que lorsque je jeûne, je réduis mes graisses. C'est-à-dire, j'aurais dû manger. Donc, lorsque je ne mange pas, je réduis mes graisses. Donc, c'est comme si que je sacrifiais à Kadosh Baruch Hu mes graisses. C'est pour ça que le jeûne est comparé à la teshuva. Le jeûne est comparé, au korban. et comparer au sacrifice. Ok. On a amené quelques exemples pour s'arrêter dessus, de Tzadikim, dans la Gemara, qui jeûnaient des quantités phénoménales de jeûne pour des choses qui nous paraissent toutes petites. Pourquoi? Encore une fois. Parce qu'ils avaient déjà fait Teshuvah, mais ils sentaient qu'ils n'étaient pas comme avant. Donc, vous savez quoi? On va relire les cas. On va relire les cas rapidement, parce que c'est comme on va se remettre dans le bain. On va prendre la page 184, en bas de la page. En fait, on a déjà lu 5 lignes en plus, mais je vais en prendre 8. En bas de la page 184. Velachen, c'est pour cela. Juste avant. Velachen, c'est pour cela. Matsinu, Bekama, Tanaim, Vamoraim. On trouve, chez plusieurs maîtres de la Mishnah et maîtres de la Gemara, Shal davar kal, que pour des choses mineures, comme on va donner tout de suite des exemples. Ayu mit anim taniot arbe meod. Il jeûnait de nombreux jeûnes. Pourquoi? Pas parce que le jeûne c'est la teshuvah. Parce qu'il sentait que depuis qu'ils avaient fait cette erreur mineure, leur relation avec Hachem n'est pas comme avant. Vous savez, même dans les relations interhumaines, on a ce problème. Quand t'as perdu la confiance de quelqu'un, c'est très difficile à le retrouver. C'est pas fini. C'est grave si on dit que c'est fini.
Mais
des fois, tu fais confiance à quelqu'un, ou il t'a trahi, ou il t'a déçu.
Ouais.
Très difficile. Alors, mais imaginez si tu sens ça par rapport à Dieu. Nous, on n'a pas vraiment, on sent pas le feedback d'Hachem. Mais un tzadik, il sent le feedback d'Hachem. Des fois, un tzadik, il fait une petite erreur. Et il sent qu'après, c'est plus comme avant. Ben, c'est pas que Dieu va le punir. Il arrivera en haut, on lui fera le tapis rouge, tout ce que tu veux. Mais il sent que c'est pas comme avant. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il jeûne. Pour être chéri au jour des 15 jours comme avant. Le jeûne remplace le sacrifice. Alors on a ici quelques exemples pour des erreurs mineures. Vous allez voir ce qu'on appelle les erreurs mineures. Oui.
C'est d'accord.
Là, c'est d'accord, on va y arriver. Pour l'instant, on est au jeûne. Donc, on a ici des exemples qu'on avait déjà cités. Hein. On a 3-4 exemples, et après il y a des autres exemples. Kemo Rabbi Elazar ben Azaria. Vous vous rappelez Rabbi Elazar ben Azaria? Où on voit Rabbi Elazar ben Azaria?
À
la Gada. À la Gada, Chazak. Comment Rabbi Elazar ben Azaria? Shaya Matir. Chetehe, parayotza, bertsua, shemekarnea, beshabat. Grande machloka dans la Gemara, vous vous rappelez?
Oui.
Est-ce que la vache a le droit de sortir avec une lanière entre les cornes? Est-ce que c'est considéré comme une charge ou pas? Tu te rappelles, David, qu'est-ce qu'on avait dit? Qui autorisait, qui interdisait?
Il y en a qui autorisait, en fait, c'est trompé.
Rabbi Eliezer, ah, attendez. Rabbi Eliezer est autorisé.
Pas trompé.
C'est pas trompé. Razak. Belle réplique. Il s'est pas trompé.
Non,
il a raison. Non, non, il a raison.
Ah oui, d'accord.
Il s'est pas trompé.
Ah, il s'est pas trompé.
Il s'est pas trompé. C'est quoi? Peut-être qu'il avait raison. Razak?
Et malgré ça, il a raison. Razak,
très, très bon point, David.
D'accord.
Non, il a raison. Il s'est pas trompé. Non, mais c'est très juste.
Hein?
Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il autorisait qu'une vache sorte pendant Shabbat avec la lanière entre les cornes. Il ne s'est pas considéré une charge. Et les Rachamim interdisaient. Rabbi Elazar, c'est pas si t'as mis discussion. Un, il s'est levé le matin, il dit, bon, qu'est-ce que j'interdis aujourd'hui? Et l'autre, il a dit, il a interdit d'interdire. Non, c'est sérieux, là. C'est des choses sérieuses. C'est qu'il y avait des raisons. Rabbi Elazar avait ses raisons. Mais Rabbi Elazar, il a beau avoir toutes les raisons qu'il veut, il est minoritaire. Et chez nous, on a un principe qui dit, Yachid verabim, halacha kerabim. Lorsque tu as une personne, un individu qui est contre la majorité, la halacha est comme qui?
La majorité.
Et donc, Rabbi Elazar ben Azaria était contraint. Maintenant, c'est pas n'importe qui, Rabbi Elazar ben Azaria.
Oui,
vous savez, c'est
oui,
qui? Rabbi Elazar ben Azaria, elle a été nommée Rosh Yeshiva à 18 ans.
Wow.
C'est-à-dire, c'était une telle, c'est ça l'histoire de la Gada. Oui. Elle était nommée Rosh Yeshiva à 18 ans, elle a eu les colonnes de barbe, etc. C'était le Rosh Yeshiva. C'est pas n'importe qui, c'était un génie. C'était un monstre. 18 ans, il était Rosh Yeshiva. Et une fois, il a eu un désaccord avec les sages. Un désaccord idéologique. Donc, il a été contraint d'accepter l'avis de la majorité. Bon, d'accord, ça assure. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? La Gemara raconte, ou pas à Mahat, une fois, Yatzaken Paratosh El Shrendo. Une fois, c'était un Shabbat. Il sortait dehors. Et il a vu la vache de son voisin, qui sortait avec une lanière entre les cornes. C'est pas sa vache, c'est la vache de son voisin. Vélo Michaba, et il n'a pas protesté. Maintenant, on va dire, en français, on appelle ça un lapsus révélateur.
Oui.
Mais bon,
il est inconscient.
D'accord. Okay. Oui, je comprends, mais il a rien dit. Il n'a pas protesté. Maintenant, l'autre, pourquoi il l'a fait? Va savoir. L'autre, peut-être que l'autre, il s'est même pas posé la question, est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria, l'autre, il a pris la vache, il est sorti, c'est tout. Et lui, après, il s'est dit, mais attends.
J'aurais dû le dire.
Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas protesté? Et on raconte que tellement ils en aient voulu pour ça, de ne pas avoir protesté, comme a dit David. Alors que lui pensait que c'était la vérité. Mais étant donné que la halakha n'était pas comme lui, normalement il était dans l'obligation de protester, de dire t'as pas le droit de faire ça. Même si lui pense le contraire. C'est fou. D'accord ? Il l'a pas fait. Et il l'a pas fait. Comme il l'a pas fait, on dit, raconte que Ushra Rushina Vipnatsomot. Ses dents, bonsoir. Ses dents ont noirci. On reprenait à la fin de, d'un écho. Ses dents ont noirci à cause des jeûnes. Tu sais ce qu'il veut dire, les dents qui ont noirci?
Hein?
Ça veut dire que c'est exactement. Les dents qui noircissent, c'est un signe d'une personne qui ne s'alimente pas. Qui mange très peu. C'est-à-dire que même le soir, il mange très peu. Parce que si tu jeûnes toute la journée, mais que le soir, tu manges bien, les dents ne noircissent pas. Les dents qui noircissent, ça veut dire que même le soir, il mange peu.
Plusieurs jours
d'affilée. Pourquoi? Pourquoi il s'en veut? Quelle faute il a fait ici, hein, Joseph?
Il a respecté la majorité.
Non, oui, si, non, il a respecté. Il a respecté.
Il a pas dit la loi de la majorité
si.
En ne protestant pas.
Ah, non, attention. Non, lui, il a rien fait. C'est qu'il n'a pas réellement, au fond de lui, accepté l'avis de la majorité au point de protester.
Oui.
Au point d'en faire son avis. C'est-à-dire que dans sa tête, il a gardé que ça, c'est leur avis et ça, c'est mon avis. Alors, je vais suivre leur avis, mais c'est pas mon avis. Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Peut-être pas. Peut-être qu'il a même pas vu. Mais dans les faits, si c'était le contraire et que c'était son avis, il aurait dit quelque chose. Il en a fait une marque personnelle. Il a rien dit. Il s'en est voulu pour ça. Il a jeûné. Pourquoi il a jeûné? Vous pensez vraiment qu'Hachem ne l'a pas pardonné tout de suite? Dans un moment un cas comme ça, il se rend compte, certainement qu'il est parti voir le Chachamim, il aurait dit, j'ai vu la vache de mon voisin, d'accord? Je m'excuse de pas avoir protesté, j'ai pas fait attention. Il a dit, bon, très bien, on passe à la suite. Mais lui, il s'en est voulu. Pourquoi il s'en est voulu? Pas envers le Chachamim. Envers Hachem. Parce qu'il a senti que la relation avec Hachem n'était plus comme avant. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Hachem dit, il manque quelque chose.
Tu te rebelles.
Donc, non, c'est pas qu'il se rebelle.
C'est une façon de se rebeller.
Non,
Hachem, il dit que...
Non.
La halakha, c'est la majorité. Voilà. Dans ce cas précis, même peut-être tu as raison, tu n'as pas raison dans le fond. Aujourd'hui, c'est la majorité qui décide comme ça.
C'est même pas... Je vais te dire quelque chose. C'est même pas la majorité. C'est même pas un problème de se rebeller. C'est un problème que, normalement, étant donné que la Torah te dit que la halakha est comme les chachamim, donc il aurait dû faire de l'avis des chachamim son avis.
Se persuader. Gommer son avis.
Exactement. Au point que c'est mon avis, et que si je vois quelqu'un qui fait ça, je dois protester. Je dois lui dire que t'es dans l'erreur. C'est un niveau. C'est déjà fort qu'il accepte l'avis des autres, alors qu'il est Rosh Yeshiva. Pas n'importe qui. 18 ans Rosh Yeshiva. C'est grosse peinture. Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Dieu seul le sait. Mais en tout cas, il s'en est voulu, il sentait que Dieu, c'est pas comme avant. Donc vous voyez pourquoi il jeûnait. C'est pas pour faire teshuva. La teshuva, il l'a déjà obtenue tout de suite. Il jeûnait pour parfaire la teshuva. Premier exemple. Deuxième exemple. Vechen Rabbi Yoshua, pareil Rabbi Yoshua, Shamar qui a dit dans notre Derayiga, Bosh ni midi vechen bachamai. Vous savez que Rabbi Yoshua, quand on parle de l'école de Bet Shammai et Bet Hillel, ce n'est pas que Bet Shammai, Monsieur Shammai et Monsieur Hillel. C'était des écoles. Ça veut dire qu'il y avait des grandes écoles talmudiques entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Et vous savez, quand c'est commencé dans les écoles talmudiques, parfois le ton monte. Et une fois, dans le feu d'une discussion, alors Rabbi Yoshua, il a dit, Bosh ni midivrechem bet shamay. J'ai honte de vos paroles, bet shamay. Maintenant, bon, c'est une phrase. C'est une réplique. Est-ce que c'est grave de parler comme ça? Est-ce que c'est grave? Bon, c'est pas bien, mais il s'est excusé, certainement qu'il s'est excusé après, qu'il leur dit, désolé, je voulais pas dire ça. Et c'est fini, on passe à la suite. Mais lui, il s'en est voulu. Et comment j'ai pu parler comme ça? Comment j'ai pu dire j'ai honte de vos paroles, Bet Shammai? Et à cause de ça, pareil, qu'est-ce que nous raconte la Gemara? Je suis à la page 185. Vouchraou, Shinav, Binatsomot, ses dents ont noirci à cause des
jeûnes.
D'accord? Tellement il a jeûné. Autre exemple. D'accord? Et là, on s'est arrêté dessus la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, on révise. Dit, autre exemple, c'était Veravhuna, Paham, Achat, et Tapralo, Retsoch, Tfilin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'infime.
Alors c'est grave, non?
Vous savez que dans les téfilines...
Celui-là, on pense à lui tous les matins.
Ah oui, d'accord.
Téfilines de la tête, de toujours être du côté noir. D'accord. Si c'est de l'autre côté, c'est pas bien. Faut le redresser. D'accord. On a lu une faravuna, il a fait la bracha, etc. Et bon, c'était du mauvais côté, mais il a redressé tout de suite. Mais concrètement, pendant quelques instants, la retsu était pas du bon côté. Mais bon, ça c'est rien. Combien il a jeûné pour ça? Même tzomot, 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il sentait que pour Akadosh Baruch Hu, c'était pas comme avant. Il sentait que pour un Kadosh Baruch Hu, vous savez, c'est comme un pro. C'est-à-dire quand t'as un amateur qui va aller jouer Bon, amateur, il va jouer, il est dribblé, il a fait comme ci, il a fait comme ça, on dit rien. Mais quand t'as un professionnel qui joue, et qui te fait une erreur d'amateur,
il a déçu.
Pourquoi les fans, ils sont déçus, hein, David? Pourquoi les fans, ils sont déçus?
Ah, il le déchire.
Il déchire? Non, mais pourquoi il déchire? Parce que, parce qu'une erreur comme ça, une erreur comme ça, elle peut pas arriver à un pro. De la même façon.
C'est pas une erreur intentionnelle.
Oui. Pareil.
Mais au niveau.
Oui, c'est pas une erreur intentionnelle. Il s'attendait pas qu'il y avait un autre qui allait dribbler, etc. Mais concrètement, un professionnel fait pas ce genre d'erreur. De la même façon. Là, on parle des professionnels du Talmud. Les professionnels de Dieu, c'est encore plus. L'Avzil, c'est encore plus fort.
Mais dans cet exemple, bon, pour le reste, d'accord, mais dans cet exemple-là, la lanière, des fois, tu la bouges, la kippa, je sais pas, elle se met.
Il s'est dit comme ça, que je comprends ta question. Il s'est dit, si mes lanières, parce que vous savez que quand on met les téphilines, c'est pour ça que je refais, parce que je voulais préciser quelques points, quand on met les téphilines de la tête, on doit les oublier à aucun instant. C'est-à-dire on doit les oublier à aucun instant. Ça veut dire à aucun instant, on doit oublier qu'on a les téphilines sur nous. Il faut se rappeler constamment que j'ai les téphilines. C'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits dans la tefila où on touche les téphilines. Prends, touche les téphilines. C'est écrit, Shulchan Aruch. Selon le Minagim, pour se rappeler que j'ai les téphilines. Il y a même des sidourim. Vous prenez par exemple le sidourim comme le Patach Eliyahu. En haut de chaque page, ils vous ont mis en gros le mot téphiline. Vous avez remarqué? C'est pas une décoration, ça. Que dans Shacharit, évidemment. Pour te rappeler que tu portes les téphilines.
Ah, bah, okay.
Bien sûr. Pour te rappeler de maîtriser tes pensées, de ne pas avoir de flatulence, et pour te rappeler que tu as les tefilines sur toi. Donc quand tu te rappelles que tu as les tefilines sur toi, que tu portes un bijou, que tu portes un trésor, que tu portes un trésor sur toi, ils ne se renversent pas. Ils ne se retournent pas.
Oui,
deux secondes. Donc lui, il s'est dit...
C'est pas accidentel. C'est...
Oui, mais voilà. Concrètement,
c'est comme la mèche de ton cheveu qui peut partir à droite et à
gauche. C'est exactement.
Lui, il doit être au top du top. Donc il a pas
c'est pas seulement ça. C'est que lui, en fait, te dit comme ça. Pour lui, c'est comme si tu dis par exemple, je donne un exemple. Parce que c'est intéressant ta question. Imagine-toi par exemple quelqu'un qui éteint la lumière Shabbat sans faire exprès. Sans faire exprès.
Il a éteint.
D'accord. Il a éteint.
Mais il a éteint.
Ben voilà. Tu mais c'est pas grave, je pas fait exprès. On te dit, ce que t'as pas fait exprès, ça révèle ce que tu en dois.
Oui, c'est ton père aussi. C'est que des fois, et c'est vrai, il a raison. À chaque fois que tu t'allumes, ça m'arrive malheureusement. Voilà. Si tu penses à autre chose,
toi,
c'est pas chaud.
Donc lui, il s'est dit, comment c'est possible que comment c'est possible?
Ça t'arrive souvent.
Ça m'est arrivé quelques fois, malheureusement.
Comment c'est possible que j'ai oublié mes tefillines qui étaient sur moi? Je n'ai pas vérifié. Vous savez, on le voit quand on voit les vidéos du rabbi, la tefillah, la tefillah. On voit que tout le temps il touche les tefillines, tout le temps. C'est presque un, j'ai envie de dire, c'est presque un tic. Un toc, appelez comme vous voulez. Il touche constamment. Parce que c'est écrit au Shulchan Aruch que constamment, on ne saura plus qu'on est fini sur nous. Donc là, Ravuna, il s'est dit, comment c'est possible? Alors, Ravuna n'a pas dit que c'est dans noirci à cause des jeunes. Ah, on n'est pas à l'école là, mais il a jeûné 40 jeunes. Donc vous voyez, ça veut dire que de là, on voit que le jeûne n'est pas forcément pour des fautes. Un jeûne, ce n'est pas pour une faute. Un jeûne, c'est quand tu sens que ta relation avec Dieu n'est pas comme avant. C'est comme le bouquet de fleurs. On va maintenant continuer à donner des exemples concrets d'aujourd'hui. Vechaïna Rabot, il existe encore de nombreux exemples comme ça. Va Yesodze, et d'après ce principe, donc je suis en bas de la page 185, d'après ce principe, qui justifie le jeûne comme expiation, même lorsque la teshuvah a déjà été obtenue, eh ben c'est sûr, à Yesodze, d'après ce principe, l'imed Arizal et Talmidav, le Arizal a enseigné à ses élèves, Alpi Chochmat Haemet, selon les principes de la Kabbalah, la Kabbalah on l'appelle la sagesse de la vérité. Donc le Arizal a enseigné, écoutez bien ce qu'on va dire, d'après la Kabbalah, Mispar Atzumot, le nombre de jeûnes, le Kama Avonot Vechataim, pour une série de fautes, d'accord, et de péchés, Af Shen Behem Karet, même des fautes pour lesquelles il n'y a pas de retranchement. Ça, c'est pas qu'il a mangé du Chametz à Pessah, Chas V'Shalom, ou qu'il a mangé à Kippour, etc. Non! C'est même pas une faute pour laquelle on est passé de la mort du ciel. Ok? Le Arizal a dévoilé ça. Comme quoi? Je donne un exemple. Kegon, par exemple, à la casse. C'est une personne qui s'énerve. Bah, ça nous arrive à tous, ça nous énerve. Bah, vous savez, le Arizal, dans ses livres, il dit combien de jeunes il faut jeûner pour la colère?
151
jeunes. Pourquoi? Parce que casse, c'est valeur numérique 151. Casse, la colère.
Une fois.
Après, on verra le cumul, comment ça marche.
Pas mal C'est vrai. S'il n'y a plus besoin de voyager pour être cher.
Ah, oui, c'est bon. C'est bien ça. On va débuter, on va arriver en
haut. Bah, toute la journée, tu manges pas.
Tu arrives là-haut, tu veux encore des.
Il n'y a pas assez.
T'es débuté encore.
T'es débuté. 18 mois.
T'as perdu ton permis.
Et lui, les clients.
4 points, 4 points, 4. Combien pour on peut perdre maximum à chaque fois Non, le maximum qu'on peut perdre.
Ah, oui,
si, je crois, c'est ça.
6 d'un coup.
Non, ou alors ils vont un fascicule pour ne pas s'énerver pour qu'ils puissent manger.
Non, d'un coup,
je vais couper. Tu roules à 200 ou 250.
Oui, mais je crois que si, oui.
Non, t'as pas perdu les 12 points. T'as un retrait de permis, t'as pas perdu les 12 points.
Je crois que c'est pas 6 points, oui, d'un coup.
Oui, mais c'est pas la même chose.
Il y a quelqu'un, un jeune permis qui fait un excès à 6 points.
Ah oui, il fait dur, il est plus permis. Oui, toi.
Ouais, c'est ça.
Alors reprenons. D'accord. Donc, là, on va aller plus loin, là. Le Arizal, il nous développe d'après le SOD. Il te dit, par exemple, sur la colère, 151 jeunes. OK? Enfin, filo à l'histoire de Rabbanan. Imaginez une personne qui a transgressé un interdit rabbinique. C'est même pas biblique. Par exemple, l'exemple qui est Mos Tamienam. Par exemple, quelqu'un qui a bu sans faire exprès du vin pas cachère. Le vin pas cachère, c'est un interdit rabbinique, c'est pas un interdit biblique.
Ah bon?
Parce que,
ah bon.
Bien sûr, parce que l'interdit biblique, c'est si le vin, on a fait Avodah Zara avec.
Mmh. Ah, oui, nous, parce qu'on a un doute.
Non, il n'y a pas de doute. Quand tu achètes un vin pas cachère aujourd'hui à Franprix, d'accord, t'as aucun doute qu'il y a Avodah Zara, ils n'ont pas fait Avodah Zara.
Ah,
c'est-à-dire, on peut, à la rigueur.
Non, j'ai pas dit, on peut.
Surtout Pétrus, machin.
Ah oui, c'est sûr, lui, qui a plus d'avodah.
S'il est 63, on peut discuter. Voilà.
Ah,
c'est Shalom.
Aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas, d'après la Torah, enfin.
Il n'y a pas d'interdit biblique.
D'accord.
Dans la Torah, c'est pas écrit, tu vas voir le vin de Goïm. C'est les Chachamim qui ont interdit pour deux raisons. Première raison,
que la fille du...
de peur qu'on ait fait Avodah Zara dessus. Et deuxième raison, pour ne pas qu'on ait une proximité avec le Goïm.
Oui.
Parce que le vin crée des proximités.
Vin,
maintenant, imaginez quelqu'un, sans faire exprès, on lui a offert une bouteille, il croyait qu'elle était cachère, il s'est pas rendu compte, etc., il s'est planté, bon, il s'est trompé. Le vin n'était pas cachère. C'est un interdit rabbinique.
Il a fait le kiddush de Shabbat.
Voilà, il a fait le kiddush de Shabbat. Alors, il fait tchouva. C'est quoi la tchouva? Il décide de plus recommencer, enfin, bien faire attention, qu'il y aurait une teouda, kachar, etc. Maintenant, il veut faire tchouva. C'est bon, t'as fait tchouva, ça y est, tu recommenceras plus. Oui, mais il veut parfaire cette tchouva. Il veut que ce soit parfaite. Combien de jeûnes il va jeûner? Il t'a né à une guimel ta'agnot. Il va jeûner 73 jeûnes. Pourquoi? Parce que la gimatria, la valeur numérique de Yaïn, c'est 70. Mm-hmm. Et parfois, dans la gimatria, on compte les lettres elles-mêmes. Donc, comme dans Yaïn, il y a trois lettres. Yaïn, Yud, Yud, Nun, Sofit. Donc, ça fait 70 plus 3. Et il y a plusieurs types de gimatria. Il y a des gimatria où tu comptes que la valeur numérique. Il y a des gimatria où tu comptes la valeur numérique plus 1 pour le mot. Et il y a des gimatria où tu comptes la valeur numérique plus une unité par lettre. Donc là, j'ai 73. Arizal.
Alors, excuse-moi, une question bête. rien ne dit que le jeûne, ce serait une journée entière, non?
On verra pas. C'est quoi alors?
Bien
sûr. On verra après les demi-journées. Bon, pour l'instant c'est les jeunes, d'accord? Va filo à l'histoire de Rabbanan. Va filo à l'histoire de Rabbanan qui est mot fila. Ok? Maintenant, même sur un interdit rabbinique comme la prière. Parce que c'est vrai que la prière est très importante. La prière encadre beaucoup de mitzvot bibliques, comme la mitzvah de la Emouna en Dieu, etc. Mais concrètement, la prière en soi, le timing de la tefila, shacharit mitraravit, c'est pas biblique, c'est rabbinique, ça. Imaginons une personne qui a oublié de faire une prière. Ça peut arriver, ça. Il a raté un ravit. Combien de jeunes il va jeûner? Itane à Samech Aleph. Il va jeûner 61 jeunes. D'accord? Tania, devait rouler. Pourquoi 61? Parce que 61, c'est la valeur numérique de Ani. Ani, moi. Et moi, c'est l'équivalent de la sphira de Malchut, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là-bas que la tefila passe. Bon, je ne rentre pas dans les détails de la Kabbalah. Alors, Rizal explique tout ça. Donc là, quand tu lis ça, tu dis, bon, j'ai compris. Ça veut dire qu'imaginez un jour où tu t'es énervé. Tu t'es énervé, t'as raté Arvit. D'accord. Et t'as un coup de vin, ça y est directement, chup, t'en as pour un an de jeûne.
C'est ça. Plus d'un an.
D'accord.
C'est bien,
toi. Okay. Alors, Michael, tout à l'heure, posait une bonne question. Il a dit, mais est-ce qu'on peut pas racheter le jeu?
Ah oui, oui.
Il a parlé de Tzedaka, mais j'ai envie de dire, même la Tzedaka, qui est capable de payer tout ça?
Ah oui.
Non, mais la Tzedaka...
Parce que j'ai même pas parlé du cumul. On verra après. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le chapitre 3 et 4. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chapitre suivant.
Ah oui.
Une personne, par exemple, qui s'est énervée 3 fois.
Ou
s'est énervée 10 fois. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de récidivistes? Parce que même dans toutes les fautes, normalement, il y a une limite.
Non, c'est graduel. La première fois, on prend moins. La deuxième fois, on voit.
Je comprends. Mais une personne qui a fauté 10 fois, est-ce qu'il y a une limite?
3 fois max.
Ah, ça veut dire, on te dit, ah, c'est pas simple, ça, on va voir.
Oui, mais comment? Il s'est rendu compte qu'il s'est énervé. Ça y est, il s'est énervé.
40 coups de balle.
Très bien.
Il fait 73.
Maintenant, le temps, Haloun verra Rome, le temps qu'il jeûne 151 jours, il a le temps de 10 fois de s'énerver encore.
Il a 120 ans.
Ok. Donc vous voyez que ce qu'on voit d'ici clairement, c'est que le jeûne n'est pas la teshuva. Ça c'est clair, ça c'est évident. Le jeûne n'a jamais été la teshuva. C'est clair. La teshuva, c'est le retour vers Hachem. Alors à quoi sert le jeûne? Le jeûne sert à parfaire la teshuva. Et on a vu en vérité que le jeûne appartient aux grands tzadikim en vérité. C'est pour ça que les tzadikim ils sont très souvent en train de jeûner. Ils font des petites choses. Et tu vois, ils sont en train de jeûner. Pourquoi ils jeûnent? Ils jeûnent parce qu'ils sont en train de faire teshuva. Ils sont en train de vouloir se rapprocher d'Hachem. Ils sont en train de vouloir être propres devant Hachem comme avant. D'accord? Vederechlal, de façon générale, je tourne la page. Vederechlal, et en général, au milieu de la page 186, Sodatanit, au milieu de la page 186, hein?
On était déjà.
Hein, ouais? Vederechlal, de façon générale, Sodatanit, le secret du jeûne, d'accord? Le jeûne n'est pas, alors ça c'est un chidouche aussi important qui rajoute. Il y a beaucoup de gens qui associent le jeûne au noir, au deuil, au problème, au malheur.
Oui, oui.
Pas du tout. Derrière Klal, de façon générale, Sod Atanit, le secret du jeûne, il, Sgoula Nifla, le Tanit, le jour de jeûne, c'est un jour, un moment propice. C'est un moment, Sgoula Nifla. C'est une aide mystique, extraordinaire. Pour dévoiler la volonté d'Hachem. Comme le Corban. À propos du Corban, il est écrit que Dieu il dit une odeur agréable. Donc si tu dis que le jeûne remplace le Corban, c'est-à-dire qu'un jeûne n'est pas la ramma, le jeûne n'est pas l'angoisse. Le jeûne, c'est un moment dans lequel il y a une grande proximité avec Hachem, comme un Corban. C'est un cadeau. Le jeûne, quand tu fais un jeûne à Hachem, c'est un cadeau que tu as en train d'offrir à Hachem. Imaginez une personne qui t'amène un cadeau qui te fait la tête. Il t'amène le bouquet de fleurs, et tu sais, voilà, on va faire un petit sketch, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, il est parti acheter le bouquet de fleurs, parce que, bon, tu t'es fâché, tu t'es excusé, etc. Il est parti, il a fait les frais, il est parti acheter un bouquet de fleurs, il a fait un bouquet de fleurs très cher, et il a mis 100 euros dans le bouquet de fleurs, il a mis le paquet, et il vient te voir, il dit, avec, en faisant la tête, il dit, tu vois le bouquet? Je l'ai payé 100 euros, hein, je l'ai payé 100 euros! Il lui donne le bouquet. Garde ton bouquet. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça quand on fait un jeûne?
Oui.
Bah oui. Ça te dit, ouais, je jeûne, hein! T'as pas compris le jeûne, c'est pas ça le jeûne.
Quand je fais un cadeau à ma femme, je dis aussi.
Hein?
Donc les mains, hein? Fais attention.
Mais lundi, je regarde hier un truc assez surprenant. Je commence à parler du jeûne.
Ah.
C'est des expérimentations qu'ils faisaient les Russes.
Avec
des thèses et tout. Et je regardais un petit peu les articles. Et alors, c'est quoi les vertus du jeûne? Ils montraient les expériences.
Ah, parce que des fois, tu vas prendre
ça. Ça repose les intestins, ça détoxique aussi le corps. Bon, le poids, forcément. Ça booste le moral et l'énergie.
Le jeûne.
Ça soulage les douleurs, les inflammations, les allergies.
C'est pas la beauté.
Et ça peut même rajeunir les artères, contribuer à lutter contre le diabète, prévenir des risques à l'origine de nombreuses maladies, Alzheimer, machin, cancer. Ils faisaient ces expériences, justement, sur le traitement du cancer. Ils avaient expérience en labo avec des souris. Des machins, des trucs. Ou la vertu du jeûne, comment le jeûne il avait un impact positif sur le.
Extraordinaire. Azak. Ça vient de sortir là?
Non, parce que je regardais. Non, c'est pas nouveau. Pardon, c'est des thèses qui sont reconnues. Mais bon, après, il faut savoir comment, dans quelle quantité tu le fais, de quel rythme. Il y a des thérapies.
Intéressant. Rambam, il a des mots très durs sur les autres. Il dit qu'il jeûne pendant la journée et qu'il mange le soir comme des. Bon.
Comme des rats. Il mange comme des rats.
Bon, peu importe. Alors.
Donc,
ce que je vous montrais ici, c'est que le jeûne n'est pas un moment d'angoisse. Le jeûne, c'est un cadeau que tu fais à Hachem. Il y a des jeûnes qui sont angoissants, comme Tisha B'Av. Bon, ça, c'est un jeûne pour un malheur. Mais de façon générale, quand tu fais un jeûne, comme Kippour, etc., ou même un jeûne de Teshuva, c'est pas un moment d'angoisse du tout. C'est un moment de proximité avec Hachem. Donc ça change tout, ça. Donc, moi, je sais qu'à Yeshaya, comme il est écrit dans Isaïe, Halazé, Tikare, Yom Tzom, Yom Ratzan Lachem. Là-bas, dans Isaïe, il dit, est-ce que c'est ça? Ce que tu appelles un jeûne, un jour propice pour Dieu. Là-bas, il parle de juifs qui font pas un jeûne comme il faut. Et est-ce que c'est comme ça que tu appelles un jeûne, un jour propice pour Dieu? De là, on voit que le jeûne est un jour propice. C'est pas un jour de mortification pour la mortification. C'est le chidouche. C'est-à-dire que dans notre religion, la mortification n'est jamais un but en soi. La mortification est un moyen pour améliorer ta proximité avec un Kadosh Baruch Hu. Shatsom niklal, shatsom nikra yom ratson. Atsom anirso yom ratson, qu'un jeûne qui est agréé est un jour propice devant un Kadosh Baruch Hu. Bon, très bien. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on a retenu comme conclusion? On a retenu que le jeûne n'est pas la teshuva. Le jeûne est une bonne chose qui est là pour, comme un bouquet de fleurs, pour améliorer la proximité avec Hachem. Ok. Maintenant, il faut qu'on arrive à nous aujourd'hui, en 2018, 2019, maintenant. Il faut qu'on arrive à nous pour expliquer, bon, maintenant, aujourd'hui, on est incapable de faire tous ces jeûnes. C'est dangereux pour notre santé. Et on verra plus tard que le Shulchan Aruch nous dit que lorsqu'une personne jeûne alors qu'il n'est pas en état de le faire, non seulement que c'est pas une mitzvah qui fait, c'est carrément une avéra. Pourquoi? Parce que si à cause du jeûne, il ne va pas arriver à faire ce qu'il doit faire, comme faire sa prière, étudier la Torah, travailler, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, si à cause du jeûne, qui est une chose qui n'est pas obligatoire, il y a des jeûnes obligatoires, ça n'a pas le choix, je t'ai dit, mais si une personne dit par exemple, je me suis énervé, j'ai envie de faire 151 jeûnes. Il dit, ah bon, tu fais 151 jeûnes, sur le compte de qui? Qui va payer?
Ah oui.
Bah, sur le compte de qui? D'accord, bah oui, tu vas être là, tu vas être nerveux. Tu vas rajouter des problèmes encore. Tu vas être nerveux. Tu vas pas faire la tefila comme il faut. Tu vas pas étudier la Torah. C'est pareil que quand t'avais l'habitude d'étudier une heure par jour. Tu vas étudier à cause du jeûne, tu vas étudier 10 minutes par jour. Qui va payer ces minutes qui restent? Donc le jeûne, t'as amené à une avéra. Donc non seulement que ton jeûne n'est pas émisé, c'est une avéra. Oui, mais alors comment on fait dans ce cas-là? Comment on fait? Alors on verra dans la suite que Béhémet, je vous donne déjà un preview. On peut remplacer ça par la tzedaka. Il y a des méthodes comment calculer. On va expliquer comment calculer pour la tzedaka. Mais une fois, le rabbi, il a fait un farbringen sur ça. C'était en Tafshin Chavtet, 1969. Lorsqu'il a commencé à faire les discours sur le Igaret Hatshuva à la mémoire de sa maman, enfin, fin 1968, il a dit, aujourd'hui, on faute tellement que tout l'or et l'argent du monde ne suffirait pas pour... C'est-à-dire que même si on va dire, voilà, un jeûne est égal tant d'argent. Parce qu'il y a des calculs. On va expliquer après les calculs.
Ouais, mais
personne n'a autant d'argent pour payer tout ça. Comment on fait? Alors, Rabbi avait donné un très grand chidouche. Il avait dit aujourd'hui, le fait même qu'on étudie Igaret Teshuva, ce qu'on a étudié, c'est déjà une Teshuva. Celui qui termine tout Igaret Teshuva, c'est déjà une Teshuva. On considère comme si qu'il a payé ce qu'il a bu. Après, bien sûr, on peut toujours mieux faire, mais c'est déjà une Teshuva. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère le cours qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pas stable une étude qu'on fait. C'est une étude qui est une Teshuva. Très bien, mais ça, je referme la parenthèse, on verra ça plus tard, mais
attention.
On verra plus tard, parce que je vous explique en fait. Le problème est comme ça. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est qu'on dit que lorsqu'on étudie les lois d'un sacrifice, c'est comme si on l'avait offert. Donc lorsqu'on étudie les lois de la Teshuvah.
C'est comme si on l'avait fait.
Voilà. Mais bon, ça médite. Ok. Donc là, on termine le chapitre 2. On a compris que la teshuva peut durer un instant, mais les jeûnes, ça peut durer très longtemps pour améliorer, pour parfaire la teshuva. Maintenant, que se passe-t-il? Tout à l'heure, on a posé la question, David, voilà. Que se passe-t-il si une personne a fauté plusieurs fois? Ok? Donc par exemple, quelqu'un qui s'est énervé 3 fois. Pour simplifier les choses, on va dire qu'il s'est énervé 3 jours d'affilée. 3 jours distincts. Parce que si c'était le même jour, ou c'était, on va dire, c'était pas assez espacé,
c'est le même,
on considère comme
c'est
le même acte. Ah oui, d'accord. Par exemple, il y a toujours cette question. Par exemple, imaginez une personne qui a oublié que c'était Shabbat, il est rentré chez lui à la maison, il a allumé la lumière du salon, la lumière du couloir, la lumière des toilettes, il a fait la totale, mais c'est le même oubli. Non, mais il a oublié.
C'est comme le boxeur qui tape les autres. C'est dans la même colère.
Donc, comment tu considères ça? Est-ce que tu considères ça comme 5 fautes?
Ah oui, c'est une faute.
Ou est-ce que tu considères ça comme un oubli? En général, dans les korbanot, on dit que on se base sur les RLM. Et LM, c'est l'oubli. Donc, le nombre d'oubli que tu as eu en vérité. Le nombre d'ignorance. Par exemple, je vais aussi simplifier les choses. Imaginez une personne qui était dans l'ignorance toute sa vie. Il ne savait pas qu'allumer la lumière, c'était sur Shabbat. Il ne savait pas. On ne l'a jamais appris. Il a passé comme ça 20 ans de sa vie, il savait pas que allumer la lumière serait sur Shabbat. Et un jour, il y a un rabbin qui vient chez lui à la maison, il voit allumer la lumière, il dit, mais c'est un sot. Il savait pas. Donc ce bonhomme, combien de fois il a allumé la lumière dans sa vie Shabbat? Des milliers de fois. Combien de korban il va amener? Un korban. Parce qu'il y a un seul oubli. Il y a un seul oubli. Par contre, si ce monsieur, il savait que ça serait allumer la lumière Shabbat, il a oublié ce Shabbat, il a allumé. D'accord? Après, ça c'était vendredi soir, après Shabbat matin, il se réveille. Entre temps, il s'est rappelé, il dit, je recommencerai pas, mais Shabbat matin, il oublie encore une fois, et il rallume. D'accord? Et Shabbat après-midi, il s'est rappelé déjà, mais il a oublié encore une troisième fois, et il rallume. Combien de korbanot il amènera à l'issue de Shabbat? 3 korbanot. Parce qu'il y a 3 oublis. Alors que l'autre, sur des milliers d'oublis, enfin, sur des milliers d'allumages, il va allumer un korban. Il va allumer un korban. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, revenons-en au jeûne, qui remplace le sacrifice. Que se passe-t-il, pardon, si une personne a fauté la même faute plusieurs fois? Ok. Alors là, je préfère prévenir d'emblée. Ce qu'on précise maintenant, c'est pas d'actualité, parce que, de toute façon, aujourd'hui, on jeûne pas ces jeûnes. Aujourd'hui, on ne jeûne plus. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de jeûner, à part les jeûnes obligatoires. Mais c'est important de répondre à cette question, parce que, si vous voulez, on a démarré par les sacrifices, qui ont été remplacés par les jeûnes, qu'on ne fait plus, mais qui seront remplacés par la tzedaka. Et qui seront remplacés aussi par l'étude. Donc, il est important de savoir, même si je ne jeûne pas, il est important de savoir, qu'est-ce qui se passe si j'ai fauté 3 fois la même faute, 3 fois ou 10 fois ou 100 fois, combien je paye en jeûne? Et par rapport au barème des jeûnes, je saurai quel est le barème de la tzedaka qui correspond. Et quel est le barème de l'étude qui correspond. Ok? Voilà. Donc, c'est important de répondre à cette question. Veine, chapitre 3. Veine, Chachmei Moussar Acharonim, les derniers sages du Moussa, Nechleku, ils sont en discussion. Mais Mishichata Chet Echad Pamim Rabot, concernant une personne qui a commis la même faute de nombreuses fois. La question qu'on vient de poser. Diyesh Omrim, certains disent, Chet Sarich Litanot Usparatsomot, l'autre Chet Pamim Rabot. Certains disent qu'il faut jeûner autant de jeûnes qu'on a fait la faute. Il amène un exemple. Quel exemple il amène? D'accord? Il amène un exemple qui est ramené plusieurs fois, qui gagne par exemple, Hamotzi Zera Levatala. Celui qui a émis de la semence en pure perte. D'accord? C'est une avéra, c'est assourd. Que le nombre de jeunes, chez Misparat Somot Amforaj Betikunetchou Amarizal, d'accord? En pure perte, c'est-à-dire qu'il n'était pas avec sa femme, qu'il n'était pas avec ça, etc. En pure perte, pour rien. D'accord? Pour rien. Donc le nombre de jeûnes, alors attends, je parle pas d'une perte nocturne involontaire. Je parle évidemment de celui qui fait sortir, c'est-à-dire une perte volontaire. Donc chez Mispar, Atzomat, Amphorage, Betikun, Chouva, Marizal, le nombre de jeûnes qui est précisé pour ça dans le Arizal est de Pédalet, Somot, 84 jeûnes. Ok? 84 jeûnes, tout un calcul là-bas pour qu'on arrive à 84 jeûnes. Donc d'après ce premier avis, Im, Khata, Bazé, Esser, Osrim, Pamim, une personne qui aurait fauté dans cette faute 10 fois, ou 20 fois, Alderich Machal par exemple, Tsarich lit anot, il devrait jeûner, Esser Osrim Pamim, 10 ou 20 fois, Pédalet 84. Vechel Leolam, pareil, si c'est par exemple qu'il a fauté 100 fois cette fois, c'est 100 fois 84. Ok? Maintenant, d'où vient des Korban Khatat? Et pourquoi, d'où il sort ça cet avis? Tu dis, c'est très simple. Il te dit, le jeûne d'après nous ressemble au sacrifice, à l'expiatoire. Shechayav Leavi, la kolpa ou pas? Exactement. Rappelez-vous ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le korban tratat, l'expiatoire, on l'offrait pour chaque oubli. Donc, cette personne-là qui a émis de la semence en pure perte, chaque fois il s'est rendu compte que c'était interdit, il savait que c'était interdit. Donc, s'il a fait 20 fois, il y a ici.
20 fois 84.
20, il y a 20 fois. Bien sûr, là il y a 20 fautes. Donc, 20 fautes, et ben c'est 20 fois 84. Ça, c'est un premier avis. Yesh, Mechachmei Moussa. Maintenant, il y a d'autres avis qui disent non. Mais dame, il n'y a le Korban Ola. Qui disent non. Qui disent, les jeûnes ne sont pas à apparenter, ne sont pas à comparer au Korban Khatat, à l'expiatoire, qui, comme on l'a dit, correspond, il faut offrir autant de sacrifices que de fautes. Donc là, dans ce cas-là, il aurait fallu autant de jeûnes que de fautes. Il y en a qui disent non. Ils disent, que les taniotes, les jeunes, correspondent au korban ola, l'holocauste. Et alors, dit, le korban ola abaa al mitzvah tase, donc le korban ola, qui est offert pour une mitzvah positive, donc je vais tourner la page 188, d'afil ou avaa kema mitzvah tase, que le din est, que même si une personne a transgressé plusieurs mitzvot positives, par exemple, il a pas mis les tefilines, donc il a omis de mettre les tefilines, il a omis de faire le schéma, il a omis de rajouter, etc.
C'est un commandement positif, ça.
Si, c'est un commandement positif.
Non. Dans le cas cité là, c'est pas l'interdiction d'un commandement
oui,
positif.
Oui, je compris. Mais, que dans le Korban Ola, le din est, oui, que même si une personne, il a omis plusieurs péchés, plusieurs Korban Mitzvot Asé, et ben, il mit kaper, pas machat. Il suffit d'un Korban Ola pour tout sacrifier, pour tout répondre. Donc, ils te disent comme ça, ils te disent, c'est pas compliqué. Ils te disent, nous, on pense que le concept du jeûne n'est pas à apparenter au korban khatat, qui lui est un korban par faute. Le jeûne, étant donné que le but du jeûne c'est l'être chéri aux yeux d'Hachem comme avant, et que la Gemara le compare au Corban Ola. Donc, on devrait, donc, une fois suffit. C'est une personne qui s'est énervée 10 fois.
Peu importe
la. Pas forcément, mais en tout cas, une personne par une qui s'est énervée 10 fois. Une seule fois, 151 jeunes, pas 10 fois.
Aussi bien pour comment positif que négatif, alors là.
Oui, oui. Ce qui te dit. En fait, la question est comme ça. C'est à quelle catégorie de jeunes, à quelle catégorie de sacrifices on doit comparer le jeûne? Est-ce qu'on doit comparer à l'expiatoire?
Ou là.
Ou à l'Holocauste. Si tu compares l'expiatoire, c'est un nombre de jeunes par acte. Si tu compares les jeûnes au Corban Ola, à l'Holocauste, dans ce cas-là, c'est.
Par thème.
Une fois par thème, exactement par thème. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est marloquet, elle est dure cette marloquet. Vaharam koubelet basé, et la décision acceptée en la matière, parce qu'il faut bien, trouver une décision. Leit anot, c'est de jeûner, comme a dit David, gimel peamim kefim mispar atzma de chedze. Trois fois, comme pour la faute. Pourquoi trois fois? On va expliquer pourquoi trois fois. C'est bien, tu as un avis qui dit ta faute est 20 fois, eh ben, tu jeûneras 20 fois 84 pour cette faute. T'as un autre avis qui dit non. Tu jeûnes une fois 84, même si t'as fauté 100 fois. Alors, quelle est la décision? Comment on a trouvé le juste milieu? Le juste milieu, c'est trois fois. Donc, en l'occurrence, pour cette faute, la faute de la semence en pure perte, combien de jeûnes il aurait fallu jeûner?
252.
D'accord? 252, 3 fois 84. Dehainu, resh kumbet. Alotsat, shirvatzera lavatala. D'accord? Vechen, pareil, bishach hatayim vavonot. Alors, vous comprenez très bien pourquoi il s'arrête sur cette faute, parce que c'est une faute qui pourrait correspondre à plusieurs personnes. Et on en parle beaucoup dans le Tanya de Sefer, dans certains endroits. Et donc, vechen, bishach hatayim vavonot, et pareil pour les autres fautes. Pourquoi trois fois? Pourquoi trois? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas cinq? Pourquoi trois fois? Mais la raison en est, ou alpi, bashekatu, bezohar akadosh. Selon ce qui est écrit dans le Zohar akadosh, sauf parachat noir, à la fin de la parachat noir, le Zohar, il dit comme ça, dans Parashat Noir. Il dit, la première fois que tu fais une faute, tu fais une trace. La deuxième fois que tu fais une faute, tu repasses sur la trace et tu marques le support. La troisième fois que tu fais la faute, tu transperces. Mais une fois que tu es transpercé, ça ne change plus après. C'est de là que vient le chiffre 3. Parce que pourquoi 3? Parce qu'en vérité, jusqu'à 3, à chaque fois que tu fais la faute, tu rajoutes quelque chose.
Après, c'est bien.
D'accord. 1, t'as fait une trace. 2, t'as enfoncé. 3, t'as percé. Mais après, une fois que t'as percé, alors bien sûr que c'est grave parce que tu augmentes la gravité, etc. Mais dans les faits, t'as déjà transpercé. C'est la raison pour laquelle on s'arrête à 3. C'est ce que dit le Zohar. Zimnatlita, la troisième fois, it pachata ou kitma, la faute, donc la tâche, s'est répandue. Mixitrada, les citrada. Elle se répand d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'elle est partie, elle est transpercée d'un côté à l'autre. Comme une tache, tu vois. Tu prends une tache. Première fois, bon, tu vas que dans une surface. Deuxième fois, elle imprègne. Troisième fois, tu vas de l'autre côté. Mais une fois qu'elle est passée de l'autre côté, c'est fini. Après, tu peux envoyer autant. Bien sûr, c'est grave, parce que chaque fois que tu c'est grave. Mais en vérité, la faute, elle a déjà été dans son paroxysme. C'est pour ça qu'on a été trop fort.
Et donc ça vient effacer jusqu'à la trace? Les trois fois?
Monsieur? D'accord, donc c'est pour ça que d'après cet poskim, la décision qui a été trouvée, le juste milieu, c'est de dire trois fois. Pourquoi trois fois? Parce que trois fois, c'est le maximum d'une avéra, c'est la peine maximale. Parce que plus que trois fois, après, de toutes les façons, t'as déjà transpercé. Ok. Bon, quand on lit ça, la vérité, on a envie de fermer le livre. Parce que tu dis, bon, il m'a négocié, tu vois, tu négocies avec le fils, tu vois, tu négocies avec Dieu, tu dis, bon, écoute, voilà, trois fois, c'est bon, donc toi, t'as fauté 10 fois, bon, c'est bon, tu payes 3 fois 151 jeunes, hein. Tu es énervé 3 fois, tu es énervé 100 fois, bon, allez, je te fais un prix. 3 fois 151 jeunes. Combien ça fait 3 fois 151?
453.
Imaginez, c'est juste pour la colère, le gars, il s'est énervé 3 fois, 453.
18 mois.
Jeunes. 453 jeunes. D'accord? Il a oublié, etc., enfin, etc. Et avec ça, on a donné qu'un échantillon des noms de jeunes. Vous ouvrez les tikkunis à Rizal, le Rizal te donne, et des jeunes, et des jeunes, et des jeunes, et des jeunes, et des jeunes.
C'est bien carreau, quoi.
C'est pas possible.
Vous les jeunesses.
En prix, il dépose.
C'est pas possible. Ouais. Donc là, on comprend que c'est pas possible. Et donc là, il y a un tournant dans Tania, dans Guerre d'Atchoua. C'est-à-dire que si vous voulez, jusqu'à ce début du chapitre 3, on te parle d'une situation idyllique, ça veut dire, on te dit, voilà, bah, écoute, c'est pas grave, avant, on avait les sacrifices, qui ont été remplacés par les jeunes, ta, 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 puis on paye, tu vois, 151, pac, 84, pac, 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 pac. Bon, attends. Tarles, concrètement, je fais quoi? Alors, il dit comme ça. Il dit, Achen, cependant, page 189, Achen, cependant, Kolze, tout cela, be Adam, Chazak ou Bari. Tout ce qu'on vient d'expliquer, jusqu'à maintenant, ne concerne qu'un homme robuste et en bonne santé, ce qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord ? L'homme robuste de la Gemara, d'accord ? D'accord ? L'homme robuste de la Gemara, c'est une personne qui peut jeûner sans problème et le jeûne ne lui fait rien. Il travaille comme d'habitude.
Ah ouais, non, c'est vrai. Y a pas.
D'accord ? Chez En Ribouy Atsomot Mazik Lo Klal Ivriot Gufo. Une personne qui est en parfaite santé, au point que les multiples jeûnes ne nuisent pas du tout à la santé de son corps. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin du jeûne, il en forme. Bon, il n'a pas mangé, il a un peu faim, c'est normal, il a faim. Mais son corps est en parfaite santé. Donc là, on parle d'une autre dimension. À l'époque, la Gemara, c'était souvent comme ça, les jeunes étaient comme ça.
D'accord. D'accord.
À l'époque, la Gemara, le corps des gens était très fort. Les gens avaient un corps qui était très solide. Comme dans les premières générations. De nos jours, il y a quelques personnes qui sont comme ça, mais c'est très rare. Des gens qui sont capables de vous enchaîner jeune sur jeune et que...
Non, mais peut-être qu'il veut dire que c'est pas en... Il résistait au mal.
Non, c'est pas que c'est sûr que ces gens, c'est non, il dit clairement. Il dit que c'est des gens...
Physique,
d'accord pour tenir, c'est des gens qui avaient les conditions physiques pour tenir.
Supporter, ouais, sans se fatiguer, sans
se
fatiguer.
Sans tenir.
Un jour, deux jours, 150 jours.
Même deux jours.
Ça veut dire, si tu veux, c'est une personne, c'est des gens à l'époque qui pouvaient te jeûner 151 jeûnes d'affilée ou même 200 jeûnes d'affilée, bien sûr en mangeant le soir, et ils étaient parfaitement opérationnels pendant la journée.
Des jeûnes de 25 heures. Hein.
D'accord. Oui, mais c'est très difficile.
Quand on dit c'est jeûne, c'est sans eau, sans rien.
Sans rien. Un jeûne, c'est sans rien.
Et quand le travail fait chaud, c'est dur.
Hein. En hiver, là, tu jeûnes.
Mais c'est l'eau.
Non.
C'est l'eau qui
manque. Ça commence à 8h, tu finis à 17h.
Mais quand c'est en été, tu commences à 4h, tu finis à
10h. Pourquoi en faute qu'en hiver?
Ah oui.
Non, mais c'est-à-dire, tu peux choisir quand tu peux jeûner.
Je comprends, mais c'est extrêmement difficile. Non, mais c'est très difficile.
C'est difficile.
Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une personne qui jeûne. Ça ne lui fait rien à son corps.
Non,
c'est très rare. La preuve, c'est que tu vois bien après.
Non, tu peux à la rigueur manger
très. Ça, c'est pas un jeûne, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple de s'autoriser ça. Tu vois, cette histoire de se lever à 6h du matin et manger juste avant le jeûne,
ça sert à rien.
Ah bon ?
C'est pas sûr de s'autoriser, mais ça, on verra après.
Ah bon ?
Oui, c'est pas sûr. En tout cas, pour les jeunes publics, on tolère, mais pour les jeunes personnels, on n'a pas le droit.
Ah d'accord.
Les jeunes personnels, ça commence depuis la veille.
Ah d'accord.
Ah oui. Donc, c'est, du coup, ça te fait un jeûne.
Quand on dit le jeûne, c'est 5h, 17h,
4h. 25h,
non.
Justement. Il te dit 25h.
C'est pas 25h. C'est 25h. Et là, on a jeûné il y a 15 jours.
Oui.
Moi, je suis levé le matin.
Oui, j'ai pas dit que c'est interdit. J'ai dit qu'on verra plus tard, c'est pas si simple.
C'est le soleil qui
est tombé. Il faut vraiment
faire la kavana de se lever, avec ça, c'est marloquette, etc. On va voir après. On va en parler.
Ah, d'accord.
Donc, il dit la chose suivante. Il dit tout ça. Tout ce qu'on a expliqué ne concerne que des gens qui ont un corps en parfaite santé, qui peuvent se permettre de jeûner, au point que ça ne leur fait rien à leur corps. D'accord ? Ce qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui. Il y a des tzadikim comme ça. Il y a des tzadikim comme ça qui jeûnent beaucoup, qui dorment très peu, qui dorment 2 heures par nuit, et qui sont en meilleure santé que nous.
Oui, avant tout,
ouais. Aujourd'hui, il y a des
tzadikim
comme ça qui ont 80, 90 ans, qui dorment 2 heures par nuit, 3 heures par nuit.
Ils récupèrent d'Arizal aujourd'hui, manger 3 dates dans la journée.
Mais... Oui, mais ça, je pourrais parler du rabbi aussi, je pourrais parler de.
Ah, etc. Rabbi,
le rabbi, on lui a amené le plat, il ressortait presque plein.
Son père, plein. Son voleur, il dort combien de pauvres, son père? Je le vois les fois très tard, le soir, le matin, il y avait.
Bah, au Hachem. Donc voilà. Donc comment ça marche? Aval, mais cependant. Donc ça, les gens comme ça, ils peuvent jeûner. Aval, cependant. Je précise encore, il faut être sûr à 100% que ton corps peut tenir. Aval, mais. Mishiribu yatsovot maziklo. Celui. Qui est sensible aux multiples jeûnes. Que des fois, un jeûne, de temps en temps, il peut faire, mais au multiple jeûne, il est sensible. Chef Shah, qu'il est possible, chez Yochal Lavoli Decholi au Michouch Chazé Shalom, qu'il est possible, c'est pas qu'il est sûr. Il se doute que peut-être, si jeûne plusieurs jeûnes d'affilée, il pourrait en arriver à devenir malade ou avoir d'autres maux. Dieu préserve. Parce que c'est quoi le problème? C'est que le problème, c'est que quand tu manges pas comme il faut.
On parle pas des jeûnes qui sont obligatoires.
Voilà.
On parle pas des jeûnes qui sont obligatoires.
Obligatoire. L'obligatoire, on dit tu jeûnes, t'as mal à la tête, tu jeûnes quand même. Tant que t'arrives à jeûner, tu jeûnes. Là, je parle d'un jeûne bonus. Un jeûne qui n'est pas obligatoire par la Torah. Que moi, je veux jeûner pour pas faire ma teshuva. Mais le problème, c'est que si c'est à cause de ce jeûne, je vais me faire mal, dans le sens que, chas v'shalom, il y a un risque que la personne tombe malade. Ou il y a un risque qu'il arrive à un autre problème. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que, quand tu manges, ton corps arrive à combattre les microbes, les maladies, etc. Mais lorsque le corps n'est pas en bonne santé, lorsque le corps est affaibli, Dieu préserve, il est exposé à toutes sortes de maladies.
On parle de jeûner la journée, hein, c'est pas le jour.
Mais je comprends, mais c'est très difficile. Hein, mais c'est très dur. C'est dur. Tu imagines ce que ça veut dire?
Le ramadan tous les ans, c'est ça?
C'est
dur, 40 jours.
C'est
qu'il commence au lever du soleil.
Ouais, j'explique, tu es pas derrière eux, c'est parce que je mange pas la
nourriture. Arrête toi, je t'en prie, c'est ce qu'ils font le ramadan.
Ouais. Et ils disent un jour, moi je les vois, et un jour, ah non, mais aujourd'hui je peux, je
rentre après. Je vais partir en Belgique.
Alors, dis-moi,
c'est pas la même.
Mais il y a toujours qui fraude, qu'est-ce que tu crois? Il me parle des fraudeurs, l'autre. Des gilets jaunes, toi. Des gilets jaunes, moi je te parle des gens qui font.
Il a raison, d'accord. Ça veut dire que c'est difficile.
Non, mais quoi que ce soit, c'est difficile, mais c'est pas impossible.
Personne n'a dit que c'est impossible. La raison en quelle est la
question. Que t'es en train de nous dire, on peut pas le faire.
On peut pas le faire. Bien sûr, on peut pas le faire. Parce que la question, en quel état tu vas être. Ouais, j'ai pas dit que tu peux pas
moi,
le faire.
C'est clair, je pourrais pas le faire, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui peuvent le faire.
Non, mais là aujourd'hui, la majorité des gens ne peuvent pas le faire.
La journée.
Ils peuvent pas le faire. La majorité des gens ne peuvent pas le faire. C'est pas qu'ils peuvent pas le faire. C'est qu'ils peuvent pas le faire sans que ça les affaiblisse.
Mais c'est pas dit d'affiler la manière. Ça peut être.
450 jours,
450 jours. Il faut bien le payer, il faut le faire.
Quand on dit 60 jeunes, c'était toujours d'affilée.
C'est pas forcément d'affilée, mais concrètement, il faut les payer.
Ah, c'est dans l'année?
Non, il faut les payer. Ok? Alors, une personne comme ça, et comme je disais, c'est le cas de la majorité, Kemo, Bedorote, nous, Elé. Comme dans notre génération. Le Shulchan Aruch nous dit que dans notre génération, la faiblesse est tombée dans le monde. Déjà, le Shulchan Aruch dit ça. Aujourd'hui, on est une génération faible. On a peut-être plus de sagesse dans le monde, mais nos générations sont faibles. Le corps est faible. C'est plus on avance, plus les générations sont faibles.
Mais là, par exemple, ça, ils ont dit ça.
Déjà, à l'époque du Shulchan Aruch, quand on parlait de l'époque de Gemara, on disait à l'époque qu'ils étaient forts. Et nous, aujourd'hui, quand on compare par rapport à il y a 2 siècles, 3 siècles, on dit à l'époque, ils avaient un corps plus robuste. Il est clair qu'aujourd'hui, on a des corps très faibles.
C'était habitué à rien manger aussi à l'époque. Aujourd'hui,
ils avaient des corps plus robustes. Il faut dire les choses clairement.
Aujourd'hui,
ils avaient des conditions physiques qui étaient beaucoup plus. Aujourd'hui, l'ascenseur, il tombe. Juste, je reviens chez moi. L'ascenseur, il est tombé en panne, là. Et bon, il en réparé. Il est tombé en panne pendant quelques jours. Là, je me rends compte que je dis, mais attends, je vais monter l'escalier. Là, tu te rends compte, tu dis, mais attends, mais tu arrives, quand tu montes, tu descends plusieurs fois, t'es un peu essoufflé, tu vois. Je dis, mais les gens à l'époque, il n'y a pas l'ascenseur.
Étage.
Je parle même pas d'une cour, je parle de monter les étages.
Hein? M'amuse à monter.
Bon. D'accord? Non, c'est pas la même chose. Marcher, monter les étages, ça n'a rien à voir.
Non, très bien, c'est fatigant.
Ça n'a rien à voir.
Je fais Shabbat à 12 étages,
J'habite au 11e étage, je peux te dire, ça n'a rien à voir.
Ah ouais.
J'habite au 11e étage, je marchais une demi-heure pour arriver chez moi à la maison, ça ne me faisait rien. Mais les 11 étages. Ça n'a rien à voir.
C'est
pas les mêmes
états. En Europe et tout, les pays occidentaux, on s'est affaibli vachement. Quand tu vas dans les pays d'Afrique où ils sont costauds, les mecs. Et puis ils font des gosses et tout, ils sont costauds. Ouais. Ils ont une force que nous, on avait peut-être avant.
C'est vrai.
Et nous, on s'affaiblit ici. Hein.
Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation a beaucoup simplifié les choses et fait que l'homme ne travaille presque plus, en vérité. D'accord. Il est devant un ordinateur, derrière une machine, etc., digital. Il bouge pas. Il est là, il bouge pas. Il appuie sur une pédale, ça avance, il appuie sur une pédale, ça freine, il est là. De moins en moins. Avant, il y avait besoin des deux mains, des deux pieds. Maintenant, il y a un pied qui marche. Il y a juste un pied.
Une seule pédale, c'est fini. Une Nissan, voiture, avec une seule pédale. T'accélères, tu lâches le frein, tu vas dire,
il n'y a plus de jeu. Un champ, un truc comme ça.
Hein. Bah, les Tesla, c'est comme ça.
Ah bon? Tu lâches ça seul.
La Tesla, tu peux la conduire à. Bon, enfin, faut pas t'apprendre ça à toi. Hein.
Avec le robot.
Tu peux la conduire avec juste la pédale. Ça veut dire que quand t'appuies, s'accélère.
Tu lâches, freine.
Et quand tu lâches, freine.
Ah, d'accord,
c'est pas quand tu lâches. Mais après, il y a un frein aussi, mais t'es pas obligé d'utiliser le frein. Bon, reprenons. C'est très fort ce qu'il dit ici.
Ah oui, c'est fort.
Donc, il te dit comme ça. Il te dit que les gens qui sont solides, ils peuvent jeûner. Les gens qui sont pas solides, ou qui a un risque, peut-être, il va à cause de ça, s'affaiblir. Bon, on va tomber malade, s'affaiblir. Assour le larve de ta niote. Une personne comme ça n'a pas le droit de multiplier les jeunes. C'est pas qu'il n'a pas besoin. Assour l'eau. C'est assour. Pourquoi? Ça va, t'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas, je vais essayer, on verra. Non! Assour!
Donc il peut plus réparer.
Et tu dis, mais j'ai fait une avéra très grave. Donc, une avéra sur laquelle, Khayav Karet, j'ai mangé du Khametz à Pessah. Laissez-moi réparer. Assour de jeûner. D'accord? Affilo al kret de mitzvot bedin, ou mikol sheken, la plus forte raison, al mitzvot assez, vous avez le même karet. C'est-à-dire que même pour une faute extrêmement grave, on t'interdit de jeûner si tu sens que t'es pas, qu'il y a un risque que t'es pas capable de gérer le jeûne. À plus forte raison, si c'est pour une faute qui est plus, qui est moindre, qui est pas si grave. Et là seulement, je suis en bas de la page 189, et là seulement, kefi achar yesha'er ben nafsho. Il n'a le droit de jeûner seulement, kefi achar yesha'er ben nafsho, comme il pourra estimer personnellement, chez Bevadaï, le Yazik Loklal, que c'est sûr que ça va pas, que ça va pas lui endommager, qu'il est sûr à 100%. Par exemple, peut-être qu'il sait que voilà, je sais que si je jeûne 5 jours d'affilée, je gère. Si je jeûne 2 jours par semaine, je gère. Oh bien, donc là, il va faire un calcul, il va dire voilà, 2 jours par semaine, d'accord, je vais mettre 2 jours cette semaine, 2 jours la semaine prochaine, 2 jours la semaine prochaine, il fait un calcul. Et comme ça, il espère payer. Seulement, le rabbi dit que ça, même ça, là on voit la iridette à deux rotes. C'est-à-dire, déjà à l'époque, on te parlait de nombre de fois. C'est-à-dire, on dit, bon, écoute, tu vas pas jeûner 10 fois 84 jeûnes, tu vas jeûner 3 fois. Après, on te dit, bon, écoute, calcule personnellement et tu étales, d'accord? Ça, c'était l'époque de Mourazaken. Maintenant, Mourazaken, il y a 200 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu arrives à notre époque, le rabbi dit, à notre époque, même ça, on peut pas. Même ça, de dire, je paye 2 jours cette semaine, 2 jours cette prochaine, même ça, on peut pas. Le corps humain n'est pas conçu. La majorité des corps humains ne sont pas conçus pour ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous dit, vous savez, par exemple, normalement, on n'a pas le droit de manger avant de prier. C'est assaut. C'est écrit en Shulchan Aruch, c'est assaut. Mais le Shulchan Aruch te dit, si une personne sent qu'il est faible, et c'est quoi faible? C'est pas qu'il est malade.
Non.
C'est pas qu'il est malade. Le Shulchan Aruch te dit, c'est qu'il sent que s'il ne veut pas manger, il n'arrivera pas à prier comme il faut. Parce qu'il a le droit de manger. Même et peut-être même qu'il doit manger.
Mais tu parles pour le matin.
Le matin. Oui, le matin. Ça veut dire quoi?
Le matin.
Je parle du matin. Ça veut dire que, et ça, le rabbi dit clairement, sur ça, le rabbi a dit que pour ça, notre génération, on est une génération faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, chez Chabad, on a l'habitude de manger avant la tila. On a l'habitude de manger. Pourquoi? Après, chacun connaît son corps.
Oui.
Si quelqu'un il sait qu'il peut tenir et qu'il ne sera pas du tout dérangé pendant la tila, qu'il n'a rien pris normalement, de Chabad. D'accord? Mais aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas dans cette situation. Que même s'ils peuvent tenir, tu peux tenir.
Mais
si, c'est pas difficilement, si ça occupe ta pensée et que ça te dérange d'être là, tu as le droit de manger. J'ai pas envie de faire un repas.
Oui, un petit
prendre un gâteau, un café, de quoi tenir, de quoi démarrer. Starter, tu vois, un petit starter, d'accord. Shabbat, c'est très long. Mon père, le rabbi, il m'a raconté tout à l'heure, il m'a dit, il a fait l'expérience. Regardez, Il m'a dit, j'ai remarqué que dès que j'ai dépassé midi, midi 5, midi 10, l'attention des gens est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que quand tu parles aux gens, tu leur parles à 11h, 11h30, jusqu'à midi.
C'est encore le coup, d'accord.
Tu vois, ils sont avec toi. Midi 10, midi 4, ils sont plus là.
Comment ça va?
D'accord. C'est-à-dire que le ventre, ils sont déjà ailleurs. Ils sont déjà avec la dafina, avec la piela, avec les plateaux, avec je sais pas quoi. Ils sont ailleurs.
À midi, c'est midi.
Voilà.
Tu vois, je n'ai 84 jours d'affilée, toi.
Moi,
okay.
C'est
pour ça qu'on a fini. Michelin de la Gemara, dans les mots, suivez dans les mots, oui. En bas de la page 189. Même à l'époque de la Gemara, ne jeûnez de cette manière, et la beriim, seulement les personnes robustes, des matzoul et tsaorena shayou, qui pouvaient se mortifier. Quand on te raconte à Rabbi Elazar ben Azaria que ses dents ont noirci à cause des jeûnes, parce qu'il arrivait, son corps géré. Mais il y a plein de talmidei chamim qui ne pouvaient pas. Alors comment ils faisaient autre chose? Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Son corps ne gère pas. Si à cause du jeûne, tu n'es pas opérationnel pour faire ce que tu dois faire, t'as rien fait. Non seulement que t'as rien gagné, t'as perdu, c'est une avéra. Hachem, il va te demander des comptes pour la Torah que t'as pas étudiée à cause que t'étais fatigué à cause du jeûne.
C'est
un suicide, très échelon. Lorsqu'une personne jeûne alors que la Torah ne lui demande pas, que la Torah lui interdit carrément, et qu'il lui jeûne quand même, et si très échelon tombe malade à cause de ça, il arrive en haut, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est quoi cet excès de zèle? On t'a pas demandé de jeûner. Pourquoi t'as jeûné? Pourquoi t'as jeûné? Si c'est un jeûne obligatoire par rapport à ta question tout à l'heure, si c'est un jeûne obligatoire, là on te dit que tu dois essayer de jeûner, même si tu as mal à la tête, tu tiens ce que tu peux. Là on te dit ce que tu peux. Mais par contre, pour les jeûnes ici, les jeûnes optionnels, c'est pas tu jeûnes ce que tu peux, tu jeûnes ce que ton corps est en mesure de gérer sans aucune trace. Tranquillement. Ok? Alors. Udlo matsu le tsaore nafshu mitane, nous dit la Gemara. Celui qui ne peut pas jeûner, et que pourtant il jeûne, nikra choté. Il est appelé dans la Gemara un fauteur, donc vous imaginez. Lui, il dit, Zarma, je vais jeûner pour pardonner mes fautes. Mais si t'es pas capable de gérer le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, le jeûne lui-même est une faute. Le jeûne lui-même est une faute.
Donc tu rajoutes,
tu rajoutes sur le compte. Mais Gemara, Père Kamal et Tanit nous expliquait dans la Gemara, dans le premier chapitre, du traité Tanit. D'accord? Va fulumitana la verot chebiado. Et là-bas, la Gemara, elle dit qu'il y a plusieurs catégories de jeûne. Il y a une personne qui jeûne pour s'approcher d'Hachem. Non, elle veut s'approcher d'Hachem. Mais là-bas, la Gemara te dit, même si une personne qui jeûne à la verot chebiado, pour des fautes qu'il a commises. Donc tu dis, bon, je veux bien. Je veux bien que si j'ai pas commis de faute, que je veux juste m'approcher de Dieu, je comprends qu'on te dit, écoute, sois pas plus royaliste que le roi. Le roi, il te dit d'arrêter, calme-toi. C'est bon. Mets le frein, calme-toi. Mais là, il dit, je suis pas en train de vouloir stam approcher d'Hachem. Je suis en train de vouloir payer pour les fautes que j'ai faites. Laissez-moi, je veux rembourser. Je veux rembourser. J'ai fauté, je me suis éloigné d'Hachem, je veux revenir. Laissez-moi, je veux jeûner. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ton corps est capable de gérer? T'es pas sûr? Tu fautes si tu jeûnes. Il dit, oui, mais j'ai envie de m'approcher. Tu fautes si tu jeûnes. C'est ce que dit la Gemara là-bas dans le traité Zvachim. Comme il est écrit dans la Gemara, premier chapitre du traité Zvachim, She'en lecha adam Israël, she'en mechoyav asil. Là-bas, la Gemara dit, tu n'as pas une personne du peuple juif qui n'a pas au moins une faute positive qu'il n'a pas accomplie. Il y a tellement de fautes. Je donne un exemple. Très simple. La Torah te dit, tu as une mitzvah d'étudier la Torah dès que tu as un instant de libre. Chaque instant de libre que tu pouvais étudier la Torah, et que tu n'étais pas en train de te reposer, tu pouvais étudier la Torah, et que tu ne l'as pas étudiée, t'as omis d'accomplir une mitzvah positive. Combien de fois ça nous arrive, ça? On dit, la Gemara, tu n'as pas une personne au monde, pas une personne au monde, qui n'a pas au moins une mitzvah positive qui est transgressée. Alors, ça veut dire, donc c'est impossible. Donc, personne peut venir et affirmer de dire, j'ai rien, j'ai pas de faute.
On part perdant, hein. D'accord? C'est le début, hein.
Ok?
Non,
ou Mikol Sheken. Non, mais au contraire, il dit pas ça pour nous dire qu'on part perdant. Il dit ça pour expliquer que si tu n'es pas sûr à 100% que tu peux jeûner, ne jeûne pas. Ou Mikol Sheken a plus forte raison. Parce que là, il y a deux catégories. Ta première catégorie, c'est une personne, un têtu, tu vois, Roche Bakir, tête dans le mur, tête de mule, qui décide et qui dit, je vais quand même jeûner. Je vais me faire pardonner, je vais jeûner, il va jeûner. Bon. Mais imaginez que cette personne-là, c'est pas un tel mitracham. Finalement, ça va lui coûter quoi?
D'où?
Bon, deux secondes. Ça va lui coûter la santé. Ça va lui coûter qu'il va être un peu nerveux au boulot. Bon, c'est pas bien, mais ça va lui coûter ça. Ça veut dire que finalement, ça va lui coûter quoi? Au lieu de gagner aujourd'hui 2000 euros, il a gagné 1500 euros. Bon, très bien, il a gagné un peu moins d'argent. Finalement, c'est pas la fin du monde. Mais imaginez si la personne qui est en train de jeûner, c'est une personne qui a étudié la Torah. Et qu'à cause de son jeûne, il aurait moins étudié la Torah. Il a été moins productif. Être moins productif dans les affaires, c'est pas une faute. Okay. Moins s'occuper de sa femme, c'est un problème. Ne pas s'occuper de sa femme, c'est un problème. Imaginez une personne que, bon, de toute façon, il va manger le soir. Il a été un peu moins productif dans les affaires à cause du jeûne. Bon, c'est pas bien. Mais c'est pas la fin du monde. Mais si c'est une personne qui est dans la Torah toute la journée, une personne comme ça, s'il jeûne alors qu'il ne doit pas jeûner, s'il est moins productif dans la Torah, il dit ici, on met Kol Sheken, Michou Baal Torah, au milieu de la page 190. C'est lui qui est Baal Torah. Shechote venenash bekiflaim. Dans son cas, sa faute et sa punition seront doublées. Non seulement que le jeûne lui-même était une faute, mais parce qu'il a mis sa vie en danger, et la Torah a dit qu'il doit faire attention à son corps. Mais plus que ça, à cause du jeûne, il n'a pas pu étudier.
Donc
il a double faute. Il voulait réparer une faute, double faute supplémentaire.
Double mise, double
peine. Il voulait aller plus loin, il a moins deux.
Et donc, il doit jeûner pour se faire pardonner.
Car à cause de la faiblesse du jeûne, il ne pourra pas étudier la Torah comme il se doit. Eh oui. Et la maïta kanté. Ah, question
nickel.
On fait quoi? J'ai compris.
On va s'arranger.
On va s'arranger, t'inquiète pas.
Vous
inquiétez pas, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Alors on discute, sortez le carnet de chèque, d'accord? Et la maïta kanté. C'est quoi la takana? Tu me prends à la gorge, là. Tu me dis, avant, il y avait les sacrifices. Bon, ben, il n'y a plus. Après, il y avait les jeûnes. Après, dis-moi, les jeunes, écoute, on a arrangé toujours trois fois le nom de jeûne. Après, on te dit, on peut pas. On te dit, si tu jeûnes, c'est une faute. En plus, si tu dis, c'est une double faute. Alors, je fais quoi? Ma itakante. C'est quoi ma takana? Ça veut dire, quel sera mon remède? Qu'est-ce dire-t-il, comme il est écrit? Vechata echa bitzdaka frok. Il est écrit dans Daniel.
Non,
si tu as avec toi, c'est pas d'accord. Frog. D'accord. Rachète ta faute, rachète-la avec la tzedaka. Ah, c'est un autre registre, là. Il nous faut un autre cours dessus. Comment chikat vous à poskim? Comment écrit les décisionnaires? L'iten beat kol yom ta'anit shel tshuva, de donner pour chaque jour de jeûne de teshuva. Je parle pas des jeûnes obligatoires, je parle des jeûnes de teshuva. De donner pour chaque jeûne de teshuva, par exemple celui qu'on a dit qu'il y a 84 jeûnes à payer. D'accord? Pour chacun de ces jours de 84 jeûnes, de donner, erer, la valeur, chai gdolim polish. D'accord? Alors c'est la valeur, enfin c'est la valeur de l'époque, qui était de 18 groschen polonais. D'accord? C'est l'équivalent qui a été écrit, c'est écrit en Shulchan Aruch, ça.
C'est un repas.
D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire de 18 groschen polonais? D'accord? Donc c'est l'équivalent de la valeur d'une journée de jeûne. De la valeur d'un repas. Parce que vous savez que, finalement, lorsque tu as jeûné, t'as économisé un repas. Un repas. À l'époque, il y avait un repas. Donc, on dit, si, toi, tu vas manger quand même, mais tu vas donner l'équivalent d'un repas. Alors, aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est l'équivalent environ de 5 euros, environ. Quelque chose comme 5 euros.
Oh, c'est pas 5 euros.
D'accord?
C'est pas 5 euros de bidin, hein.
Non, je te parle des chai de l'impolish.
Je te parle de 2019, moi.
Il est bizarre, 5 ans.
J'ai pas vu l'inflation en 2019. Hein.
Tu vas bientôt l'avoir.
Combien on est monté?
T'inquiète.
Hein. Bon. Alors, en tout cas, il faudrait voir quoi ça correspond aujourd'hui. Donc, il y en a qui disent qu'on va donner ça. Que pour chaque faute, on va... Mais attention, je parle pas de racheter les jeûnes de Kippour et de Tchabéa. C'est pas de ça que je parle. Je parle de racheter un jeûne qui n'est pas obligatoire, que je vais le faire pour la Teshuva. C'est écrit dans les poskim. On les rachète avec 18 pièces, comme on a expliqué. Bon, vous allez dire, ça va, ça c'est jouable. Si on va, il y en a qui disent 5 euros, il y en a qui disent 10 euros.
Yves, tu regardes le poskim dans ton portable?
Ah, mais non, il faut voir par rapport à. Il faut indexer ça par rapport à la vie. D'accord, donc c'est...
Ça n'existe plus, les gros chaînes. C'est quoi?
Polonais. C'est okay. La petite monnaie.
Ouais, mais non, ça n'existe plus.
Un rouge.
Alors.
Un rouge.
Si tu veux l'équivalent, alors je vais te donner l'équivalent, d'accord?
10 balles.
L'équivalent, c'est 2/3 d'un Sela de la Torah, d'accord? Un Sela, c'est 1/5 du Pidyon Haben. D'accord?
Un cinquième.
D'accord? Donc ça veut dire.
C'est 20%, c'est combien le
Pidyon? Alors, il y en a qui disent que c'est.
C'est 5 pièces d'argent.
Donc là, dans ce cas-là, le Pidyon Haben.
Donc ça veut dire que c'est 1 pièce d'argent. C'est combien
voilà.
De pièces d'argent?
Et il va nous calculer. Combien ça fait le prix du Pidyon Haben?
Je sais pas.
Non, mais j'ai pas le prix sur moi.
Dis-moi.
Tape, prix Pidyon Haben.
Il le donne.
Cherche Google, tu vas trouver.
Il dit que c'est 5 pièces.
Non, mais 5 pièces de quoi?
Pizza, cherche pas.
Mais non.
C'est
énorme. Il y a une
dinette. 10 balles, on va voir.
Ça s'en va, non?
Ça dépend. C'est en massif ou en argent.
Ça dépend. Une chose.
Si t'es dans le 16e, c'est un peu plus. C'est marqué là en plus. Si le riz, c'est un peu plus. 25 balles.
Trouvé?
Dans le 16e, c'est 25 balles. Pizza, non, 10 balles.
Bon.
Dans le 16e?
Ouais.
Non, 25 balles.
Pas du tout.
Sinon, je chercherai.
Je suis là.
J'ai pas la somme exacte, je vous l'aurais donné. Oui, mais c'est quoi 5 cycles?
Je tape sur l'ordinateur.
Mais 5 cycles.
Non, mais attends, c'est ma sortie qui m'a donné ça, c'est pas bon.
Non.
Il est sorti de site masortie.com.
Oui, mais ma sortie.
Ah oui, on va donner.
Il y a Pidyon Haben Chabad.org, je préfère cette référence.
C'est mieux.
Pidyon Haben. Voilà.
Alors, celui-là.
50 euros. Sur Bet Chabad,
100 grammes d'argent pur. La Torah fait
100 grammes.
Donc,
alors, combien ça vaut 20 grammes d'argent?
Ah voilà, maintenant tu peux trouver avec ça.
20 grammes d'argent, pris au gramme d'argent.
Allez, voilà.
Non,
ça, on va calculer. C'est, pour être précis, c'est 96 grammes. Hein. Donc, un cinquième de 96, c'est combien?
De l'argent au gramme.
Prix du gramme d'argent.
Un gramme d'argent.
Alors, un gramme d'argent.
36 euros.
C'est 44 centimes d'euros. D'accord? Donc, 20 grammes d'argent. J'étais pas loin.
8,80
euros.
8,80 euros.
D'accord. Donc, ça c'est.
Sans le café.
Hein? Sans café, ça. Donc bon, tu veux dire voilà.
Sans le café, le coca.
8,80 euros, c'est pas 20 grammes parce que c'est 96 divisé par 5.
On est moins.
Toi, t'es venu au bon moment, Franck, ça va tout le temps.
Bon, allez, avec Kitsour. On va dire 8,50€. C'est bon? Donc, on te dit, comme les poskim te disent, que pour chaque jour de teshuva, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Shulchan pardon. L'équivalent de, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 8,50€. 8,50€ par jeûne. Donc, si par exemple, quelqu'un devait jeûner 3 fois 84 jeûnes, donc 252. 252 fois 8,50€, ça fait combien?
Ça fait
4 000 euros.
Si, 252 par 8.
250 par 10, ça fait 2005.
Ça fait 2217€. Voilà, juste pour ça, vous voyez là. Juste pour cette faute là.
252 par 8.
252 fois 8,80€. Ça fait 2200 environ. D'accord? 2200€. Juste pour ça.
Ça fait un peu cher quand même.
Ça fait un peu cher quand même. C'est, vous voyez, c'est, on entend 8,50€, on dit c'est pas cher. Ouais, mais.
On peut les payer à l'avance ou pas?
Bon, alors, comment on fait? Et j'ai pas fini. Véhachir, Yosif le Fioshro. Et le riche rajoutera selon sa richesse. C'est-à-dire 8,50€, c'est le prix de base.
Ah oui,
c'est 8,50€, c'est le prix de. C'est le prix de la. C'est quoi la, comment on appelle la pizza de base?
La
marguerite. C'est le prix de marguerite. D'accord. Maintenant, celui qui mange pas de marguerite. Celui que quand il a mangé mercredi après-midi au restaurant.
Chez Maxime,
il veut toute option.
Et trois chiffres. Alors il faut trois chiffres.
Ah ouais, mais là on est
tout. D'accord. Bon, alors comment on fait?
C'est marqué pour les riches, c'est plus cher.
Comment on fait? Ah, ça on verra, son prochain. On va s'arrêter là. Je vous laisse un bon, comment on appelle ça, un bon preview, un bon. Voilà.
Bon, le riche, on verra pour le riche.
En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que plus on avance dans la génération, et plus on
est faible.
On est faible et on remplace autre chose.
Le sujet sérieux, c'est que tu vois, je me rappelle que plus on avance, avant, il paraît qu'avant, enfin, je ne sais pas sûr, à l'époque de Guémara, ils avaient un cerveau qui était capable de retenir et de rien qu'à dire un passage de Guémara.
Yérida d'Adorot.